بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاغ سوى توت اللونج وفين الله عز وجل كي نزا دوني لا بوسيبيليتي pour ceux qui sont à la Réunion, de jeûner, alhamdoulilah, le premier jour de ce mois de Ramadan 1442. Qu'Allah Azza wa Jal illumine notre journée, notre vie, par la baraka, la bénédiction de ce jeûne, et que toutes les bénédictions qui descendent durant le mois béni, faladeina havun minhu, qu'on ait une part de ces bénédictions et de ces récompenses. Nous avons eu la possibilité, alhamdoulilah, d'accomplir la salat au tarawih, la deuxième salat au tarawih, et pour ceux qui ont lu un juz, un sipara, donc par jour, certains ont fait un quart, un plus un quart, d'autres un et demi. Nous, on va sur le principe de faire un juz par jour. Nous allons donc essayer de commenter un verset du deuxième juz, c'est Yaqulu Sufaha Minan Nas. On est donc toujours dans la surat al-Baqara. Et surat al-Baqara, que j'ai oublié de mentionner hier, est une surat madaniya. Et selon certains mufassirines, la sourate Al-Baqarah a été révélée pendant, ou alors une partie a été révélée à Madina Munawara. Ça, je dois vérifier, est-ce que c'est la totalité ou une partie qui a été révélée a été révélée, subhanallah, pendant le mois de Ramadan. Donc je reprends, sourate Madaniya, ça c'est très clair, et ça c'est ce que j'avais vu dans Ibn Kathir, révélée pendant le mois de Ramadan, mais la sourate Baqara étant la plus grande sourate du Coran, certainement, il faut vérifier est-ce que tous les versets ont été révélés pendant le mois de Ramadan, ou alors une partie, ou alors peut-être le début de la sourate Al-Baqara. Le verset que nous avons retenu, alors avec beaucoup d'hésitation, il y avait, subhanallah, pas mal de versets qu'on voulait essayer d'expliquer, mais on s'est focalisé sur un verset qui a un rapport direct avec le mois béni, parce que ce verset se trouve entre la ayah qui mentionne l'obligation du jeûne et d'autres versets du Coran qui rappellent certaines règles concernant le rapport du couple pendant le mois de Ramadan. Et ce verset est entre les deux, et les savants disent que le fait qu'Allah Rabbul Izza a révélé ce verset et qu'il est entre les ayats qui expliquent le déroulement du mois béni, ça prouve bien que cette action-là a une place extrêmement importante durant le mois de Ramadan. Le verset est le suivant: A'oudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ouais. La traduction est approximative, hein. De celui qui m'invoque, j'aurais plutôt traduit quand il m'invoque. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Vous avez compris, ces versets parlent des invocations de ad-du'a. Et pourquoi on insiste beaucoup sur ce amal, cette action? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ad-du'a huwa al-ibada. Dans certaines versions, ad-du'a mukhul ibada, mais c'est on va dire une source un peu moins authentique. Ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation, le du'a, c'est l'acte d'adoration par excellence. Certains savants disent que, alors là je vais directement à la conclusion, mais c'est pas grave, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble. On voit comment on présente et où est-ce qu'on va en venir pour pouvoir développer les différents hadiths qu'Ibn Kathir rahimahullah a cités. Certains savants disent que le du'a est révélateur de ton état spirituel du moment. Vous avez remarqué que des fois vous faites du'a avec le cœur, mashallah, présent, présence de cœur, implication, concentration, et vous arrivez à détailler vos besoins, vos demandes à Allah Rabbul Izza, ça veut dire que mashallah, il y a une présence de foi qui est très intéressante, bi idhnillah. Des fois, on a du mal à trouver la concentration, ou alors on ne sait pas trop quoi demander, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est perturbé, ça veut peut-être dire qu'il y a une certaine légèreté et qu'il manque un petit peu de connexion avec le divin. Parce que le doigt est révélateur. Le doigt, c'est quelque chose qui sort du cœur. J'allais presque dire qu'il sort du ventre, des entrailles. Mais c'est exactement ça. Quand tu demandes, c'est quelque chose d'extrêmement sincère. Et pourquoi est-ce que les savants disent que, enfin, en commentaire, les savants expliquent que le Prophète dit que l'invocation, c'est l'acte d'adoration par excellence. C'est parce qu'à travers les doigts, le croyant, il, subhanallah, il reconnaît sa place de créature, makhlouq, et il expose sa faiblesse, ses attentes, ses demandes, en orientant son cœur vers son Khaliq, et il fait vivre le fameux Iyyaka Na'budu. Certes, c'est toi, uniquement toi que nous adorons, parce que le doigt est un est une ibada, et il fait vivre également Wayyaka Nasta'in, auprès de toi que nous cherchons de l'aide. C'est-à-dire que quand le croyant invoque son Seigneur, c'est que dans son cœur, il y a Al-Imanu Billah. Ce qu'on avait expliqué hier dans le début de l'Al-Baqarah, Al-Ladhina Yu'minuna Bil-Ghaib, c'est que tu crois en ton Seigneur, même si tu ne l'as jamais vu, tu ne le verras jamais de ce dunya. Même si tu ne l'as jamais entendu et tu ne l'entendras jamais de ce dunya. Même si jamais Allah ne t'enverra de signe, mais tu as une conviction tellement forte et puissante en ton Seigneur, en Allah, Azza wa Jal, Jalla Jalalu, que même si la terre devait s'effondrer, le plafond devrait, si le ciel, là on passe en mode gaulois, si le ciel devait tomber sur nos têtes, ou que notre vie serait en danger, on serait prêt à tout sacrifier pour rester dans la ilaha illallah. On ne baissera jamais d'intensité de notre iman en Allah, et ça c'est alladhina yu'minuna bil ghaib. Avoir la conviction de l'existence, bien sûr, d'Allah, de sa puissance, du lien qui nous unit à notre Seigneur, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je reprends ce que je disais, même si notre vie était menacée, j'ai dit en danger, hein, je fais très attention avec les termes, il faut faire attention en ce moment, même si notre vie est menacée, jamais, jamais de jamais, on ne sacrifierait notre iman pour quoi que ce soit. Ça, c'est alladhina yu'minuna bil ghaib. Ainsi donc, quand le croyant fait des doigts, il demande à Allah Rabbul Izzah et qu'il sent réellement qu'il est en train de s'adresser à son Seigneur, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que il y a al-iman billah de ton cœur. C'est que dans ton cœur, tu as la conviction qu'Allah t'entend, qu'Allah te voit, qu'Allah alimum bidatis sudur, qu'Allah sait ce qu'il y a de ton cœur. Et c'est déjà un grand pas. Parce que là, j'allais dire, on s'affranchit, mais je veux dire qu'on dépasse un peu la limite des actions extérieures. Des fois, on s'engouffre dans les actions extérieures, on fait plein de choses extraordinaires, merveilleuses, mais ça reste une coquille vide. Dedans, il n'y a pas grand-chose. Ça sonne creux, d'accord? On n'arrive pas à trouver concentration et dévotion, même si j'ai lu un juz en entier avec une voix extraordinaire, mais intérieurement, c'est totalement vide, Allah musta'an. Alors que lorsque le croyant fait des doigts, il invoque son Seigneur, il arrive à trouver, mashallah, la concentration, 10 minutes, 15 minutes, 20, 30 minutes, il invoque Allah, il fait des doigts avec cœur et il converse avec son Seigneur, c'est une excellente nouvelle. C'est une preuve que la foi est réellement présente dans son cœur. Voilà, j'ai dit ça en résumé, je vous ai parlé un peu de la conclusion et j'ai développé ce hadith et l'avis des savants. Quand le prophète alayhi salat wa sallam nous rappelle que l'invocation c'est l'adoration par excellence. Ainsi donc, ce verset est entre d'autres ayats qui parlent du jeûne. Entre ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam et uhilla lakum laylat as-siyam rafathu ila nisaikum. Ibn Kathir rahimahullah et également Sa'di rahimahullah, ils sont d'avis que c'est un signe que le doa, que les invocations ont une place extrêmement importante durant ce mois de Ramadan. Ils font partie des a'mal du mois de Ramadan et des promesses que notre Seigneur nous a fait durant ce mois béni. Et on avait vu en introduction que wa yastajibu fi du'a, durant ce mois, les invocations sont exaucées. Ce qui nous permet de comprendre également la place du du'a de le mois de Ramadan, c'est lorsque le prophète alayhi salat wa sallam a rappelé que inna l'isra' min 'inda fitrihi da'matun ma turad. Chaque jeûneur a, lorsqu'il va rompre son jeûne, au moins une invocation qui n'est pas refusée, c'est-à-dire une invocation qui est acceptée. Donc on comprend le lien et la place importante du doigt dans la journée du jeûne. Les savants disent également que la dernière action que j'accomplis avant de rompre mon jeûne, c'est quoi? C'est pas de lire Allahumma laka as-sumtu bika amantu wa law dhahaba adh-dhama wa batalat al-uruq. Non, ça c'est le, on va dire, l'invocation de rupture, le l'acte d'adoration que j'accomplis juste avant la rupture du jeûne, c'est justement ce sont les invocations. Les savants disent que c'est comme la récompense de la journée de sacrifice et de jeûne, et je termine en beauté en m'adressant à mon Seigneur, en lui exposant mes demandes avec cette conviction. Mais j'insiste sur le terme, cette certitude, cette conviction que si je passe 15 minutes à faire des invocations, on va dire que j'ai demandé 40 invocations différentes pour moi, pour ma famille, mes enfants, mon travail, ma santé. Il arrête les dhaliks, les fit dunya wal akhirah. Il y a au moins une de ces invocations qui a été validée. Au moins une. C'est-à-dire avec cette conviction et ce yaqin. Donc, Ikhwan et Khawati Fillah, lorsque notre Rabb Azza wa Jal révèle au prophète alayhi salat wa salam, là on revient vers le tafsir, on va essayer de suivre l'ordre des explications d'Ibn Kathir rahimahullah. Ibn Kathir rahimahullah explique que les sahaba avaient demandé au prophète alayhi salat wa salam comment est-ce qu'on doit invoquer notre Seigneur, de quelle façon, et Allah a révélé le verset que je retrouve la traduction, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Et si on pousse un petit peu plus le tafsir, on va vers le domaine du tafsir lourawi, l'analyse grammaticale. Les savants expliquent, les nahuyin, que le début de cette phrase, lorsque les serviteurs t'interrogent à mon propos, c'est une phrase verbale. Et la réponse de notre Seigneur, c'est fa inni qarib, je suis proche, c'est une phrase nominale. C'est une phrase dans laquelle il n'y a pas de verbe. C'est pour qu'on comprenne la rapidité et la proximité d'Allah Azza wa Jal avec celui qui sollicite son Seigneur et qui l'invoque. Ikhwan et Khawati Fillah, je requitte légèrement Ibn Kathir et je vous dis quelque chose d'important mais également de désolant. Il y a deux relations possibles avec le doua. On commence par la situation la plus dramatique. On a ce croyant qui ne sait pas faire doua et qui a besoin d'être assisté en permanence pour faire doua. Wallah musta'an, c'est cette personne qui a besoin du imam. Comme des fois, on a à la réunion, ça se passe comme ça, un imam qui fait des invocations après leur salat, et on se contente de dire Amin. Et cette personne n'est pas autonome dans ses doua. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que s'il a besoin il n'arrive pas à exprimer ses besoins à son Seigneur, ça veut dire qu'intérieurement, il n'arrive pas à se connecter avec Allah. Ou alors, on a la personne qui fait doua, il fait de lui-même, mais il ne fait que réciter des doua, des ad'iya en arabe, qu'il a appris, mashallah, il a une bonne mémoire, mais il les récite comme un poème, Wallah musta'an, sans réellement ressentir ce qu'il est en train de demander à son Seigneur. Ça, ikhwan et khawati fillah, c'est vraiment dommage. Pourquoi on dit c'est vraiment dommage? Cette personne n'est pas de le péché, bien sûr que non. Ça ne veut pas dire que si vous n'arrivez pas à vous concentrer, ne faites pas de doua, autrement c'est un péché. Là, wallah, personne n'a jamais dit ça, surtout pas moi. Mais je veux dire que pourquoi est-ce que c'est dommage? Parce que normalement, quand tu fais doua, c'est vraiment ton cœur qui se connecte avec ton Seigneur. Et je veux dire que c'est d'un niveau qui est beaucoup plus intime que la salah. Et je mesure mes termes. Je n'ai pas dit que c'est supérieur à la salah abadan, mais je veux dire que c'est plus intime et plus personnel. Parce que la salah et les paroles sont mahdoudes. Dans la prière, je ne peux pas demander à Allah autre chose que ce qui est révélé. C'est-à-dire, je me limite au wahi, au verset du Coran et au adhkar masnouna. D'accord? Alors que dans les invocations, ben, mashallah, je m'adresse à mon Seigneur dans ma langue natale, et je suis en droit de lui exposer tout ce qui m'est cher et important. Et il est tellement dommage qu'un croyant ne puisse pas profiter de cette occasion où il a une audience privée avec Allah, et qu'on a la conviction que si au même instant il y a 7 millions de personnes qui sont en train de demander à Allah, Rabbul Izzah, différentes invocations au moment de rompre le jeûne, si on tient compte des fuseaux horaires, dans des langues différentes, Allah écoute, et Allah ifa inni qarib est proche de chaque individu, et Allah entend chaque personne de façon individuelle, birtilaf il lurat, quelles que soient les langues, et Allah sait même ce qu'il y a de ton cœur, ce que tu n'arrives pas à exprimer par tes invocations. Allah Rabbul Izzah sait ce qu'il y a de ton cœur parce qu'il est alim bidat as-sudur, et Allah est donc attentif à chaque invocation. Donc il serait dommage que ce croyant ne puisse pas profiter de cette audience exclusive qu'Allah accorde à ses serviteurs à partir du moment où on l'invoque. Tout comme il est dommage que nous ayons à notre disposition le mushaf, un Coran, et on n'arrive pas à profiter de la lumière qu'il y a de ces versets, et qu'on est obligé de rester à distance, juste la lecture, sans pouvoir profiter de la lumière, je répète, des versets. Donc ce sont des constatations, on va dire, voilà, ce sont des situations un petit peu consternantes, où on a des bienfaits et des a'mal qui sont disponibles, qui sont accessibles, qui sont plus ou moins faciles, et que nous arrivons et que nous les caressons en surface sans pouvoir en profiter pleinement, à nous de faire un effort de nos doigts. Alors on va dire que oui, mais du coup je fais quoi? Faire un effort pour les doigts, je fais, mais je ne trouve pas concentration. Alors je fais quoi? Alors en amont, il faut déjà, je redis la même chose qu'on a cité hier. En amont, il faut essayer de purifier le cœur, faire en sorte que le cœur arrive à se connecter un peu plus facilement avec Allah. La solution, les savants disent, il y a deux approches. Premièrement, éloigner ce qui est mauvais, on a compris, tout ce qui est péché, on enlève. Et deuxièmement, essayer de faire le maximum de dhikrullah dans la journée. À n'importe quel moment, pense à ton Seigneur, car le croyant qui fait souvent le dhikrullah, il pense à son Seigneur, son cœur, il se lie d'une certaine façon à Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, quand tu vas faire du'a, il y aura une plus grande facilité à prendre conscience qu'Allah est en train de t'écouter, de regarder, il sait ce qu'il y a de ton cœur, et Allah est attentif à tes demandes. Donc ce qu'il faut travailler en priorité, en amont, c'est la prise de conscience de la valeur des invocations et l'attention exclusive qu'Allah donne, fa'inni qarib, et sa proximité avec chacun de ses serviteurs qu'il invoque. Que nous soyons, mashallah, un musulman avec un musulman 5 étoiles, ou alors lambda, basique, Allah musta'an, qui connaît la pratique que durant le mois béni, nous avons tous cette promesse d'Allah Azza wa Jal, sans distinction de niveau spirituel, que fa'inni qarib, Allah est proche des personnes qui l'invoquent. Ayons cette conviction afin que lorsque je vais demander ce que j'ai à demander dans mes doigts, j'ai cette certitude qu'Allah m'entend. On revient à Ibn Kathir, rahimahullah. Parmi les hadiths que l'Imam Ibn Kathir, rahimahullah, cité dans les tafsirs de ce verset, il y a une question que les sahaba avait demandé au prophète عليه الصلاة والسلام, قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو يا رسول الله, est-ce qu'on peut savoir à quel instant, à quel moment nous devons faire des invocations? فنزلت, et là le verset qu'on a cité a été révélé, donc c'est une seconde source d'Ibn Kathir rahimahullah concernant les circonstances de révélation. C'est pour que le croyant intègre et comprenne que à n'importe quel moment on peut invoquer Allah Rabbul Izzah. On n'a pas besoin d'être devant la Kaaba. On n'a pas besoin d'être dans le dernier tiers de la nuit. Non, à chaque moment de ta vie, pense à ton Rabb, converse avec Allah et adresse-lui tes demandes. Lorsque tu as peur, c'est avec lui que tu te confies. Il a réalisé dhalik. Et ça va construire notre iman billah, notre relation avec Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous accorde cette qualité. Naam. Le prophète alayhi salatu wa salam avait entendu une fois des sahaba, lorsqu'ils étaient en voyage, invoquer Allah et faire le dhikr à voix très haute, à voix audible, on va dire. Le prophète alayhi salatu wa salam dit que, oh, mes chers compagnons, sachez que votre Seigneur vous entend. Votre Seigneur n'est pas sourd. C'est l'expression en arabe. Donc la traduction en français est toujours maladroite. Mais c'est que votre Seigneur entend. Votre Seigneur est omniscient, donc il n'y a pas nécessité de l'invoquer à voix haute. Ne vous inquiétez pas, il vous entend, même si vos invocations sont dans vos cœurs. Et ça me dit que inna alladhina yad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilati. Sachez que celui que vous invoquez, c'est-à-dire votre Seigneur, est plus proche de vous que le cou de vos montures. C'est-à-dire que le sahaba était à dos de chameau. Et quand on est sur un chameau, je ne sais pas si vous avez l'occasion de monter sur un chameau, ben le cou de l'animal est très proche de la personne. C'est une métaphore, et là, parenthèse, c'était toute la, on va dire, l'intelligence du prophète alayhi salat wa salam de la communication. Quand il expliquait quelque chose aux sahaba, il donnait des exemples qui étaient accessibles à tous et qu'ils pouvaient comprendre immédiatement. Et c'était les exemples les plus parlants. Ils étaient sur cette montagne. Il dit, sachez que votre Seigneur est plus proche de vous que le cou de vos propres chameaux. Donc, il n'y a pas besoin de parler fort, de faire des doigts à voix haute, Allah vous entend. Et les savants, rahimahullah, les muhaddithines expliquent qu'à travers ce hadith, le croyant doit avoir la conviction qu'Allah l'entend à chaque instant, le voit à tout moment. Et donc, n'hésite pas, fais des doigts, ce ne sont pas des paroles vaine. C'est pas parce que je fais doigt et qu'il n'y a personne avec moi que c'est comme si je fais des doigts seul. Ça n'existe pas de faire doigt tout seul. Quand tu fais des doigts, c'est orienté vers Allah Azza wa Jal. Donc, sois convaincu que lorsque tu lèves tes mains et tu invoques ton Seigneur, Allah t'entend et Allah, Rabbul Izzah, va t'accepter. Hada. Ibn Kathir, rahimahullah, cite également ce hadith et j'aime bien, je fais toujours un travail de relecture entre Ibn Kathir et As-Sa'di en évitant d'avoir deux tafsirs en même temps pour ne pas jongler en différents kutub. Et là, c'est l'approche d'Ibn Kathir qui m'a paru beaucoup plus spirituelle. Parce qu'en fait, il a cité, rahimahullah, les hadiths par excellence qui permettent aux croyants de comprendre ce qu'est le doua et qu'est-ce qui doit se passer dans son cœur lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal. Et Ibn Kathir, rahimahullah, cite le hadith d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, anna nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu Allah ta'ala hadith qudsi, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha da'ani. Le hadith rapporté par Imam Ahmad fil Musnad, pour Assam, dit que Allah Azza wa Jal a dit. C'est ce qu'on appelle un hadith qudsi. J'agis avec mon serviteur en fonction de l'opinion qu'il a de moi. Et je suis avec lui, je suis auprès de lui, idha da'ani, lorsqu'il m'invoque. Lorsqu'il m'invoque. Et là aussi, les hadithines disent que ce hadith nous permet de comprendre l'importance de ce qu'on appelle le husnul dhann billah, la bonne pensée que nous devons avoir à propos de notre Seigneur. C'est ce croyant qui est dans une situation difficile. Allez, je vais vous donner un exemple très concret, hein, que on est à combien ce soir, mashallah, alhamdulillah. Je pense que toutes les personnes qui sont en ligne ont tous, à l'instant présent, déjà été dans l'attente d'un résultat de test PCR, de test Covid. Je pense que tout le monde s'est déjà fait torturer les narines pour savoir si on a attrapé le Covid, oui ou non. Quand on est dans l'attente des résultats, assurément, on n'arrête pas de vérifier notre portable, le SMS arrive, qu'est-ce qui m'a été envoyé comme résultat, positif ou négatif. Et que là, je demande à Allah Rabbul Izzah de me protéger contre cette maladie, ainsi de suite. Le husnul dhann, je prends l'exemple concret, hein, le husnul dhann billah à cet instant, c'est que tu te dises que jamais Allah Rabbul Izzah ne va m'éprouver par quelque chose que je ne pourrais supporter. Et Allah va bien agir avec moi. Si Allah a décidé de m'éprouver, c'est dans sa sagesse. Mais je demande à Allah l'afia. Et Allah connaît mes faiblesses, connaît mes manquements. Et surtout ne pas se dire que non, ben voilà, j'étais dans l'assemblée avec des gens qui ne portaient pas de masque et je suis qu'à contact, ben non, ben Allah m'a mis dans cette situation, il va pas, voilà, c'est terminé, c'est que je suis condamné. La hawla wa la quwwata illa billah. Si j'ai sous-dhann, une mauvaise opinion, une mauvaise pensée à propos de mon Seigneur, Allah agira de cette façon avec moi. Et ça, on le retire directement du hadith, hadith connaissait cela, ana inda dhanni abdi bi, et d'autres hadiths qui vont dans ce sens, qu'Allah agit avec son serviteur en fonction de la pensée, de l'opinion que ce serviteur a à propos de son Seigneur. Si je suis optimiste c'est un terme, hein, ça veut plutôt dire si j'ai une bonne pensée, une pensée positive à propos de mon Seigneur, Allah agira correctement avec moi. Si j'intègre le fait qu'Allah est clément, miséricordieux, pardonneur, il est latif, il est bienveillant, il ne prédestine que ce qui est bon pour ses serviteurs, j'aurai tout ce que je souhaite. Mais si dès le départ, je n'ai aucune opinion de mon Seigneur, je ne connais pas, ou alors je me base uniquement sur des mauvais experts. Je suis quelqu'un de pessimiste et quand j'ai vu des gens, des amis, des collègues tomber, chuter à cause de cette maladie, je me dis que bah, je suis le prochain sur la liste, il n'y a rien à faire, on ne va pas y échapper, les statistiques disent que. et du coup je ne place aucune confiance en Allah, ben ça déjà c'est une mauvaise opinion, c'est-à-dire qu'on n'a pas le husnul dhann billah. Donc ikhwan et khawati fillah, en amont, on revient vers nos bases, vers les programmes que bidnillah on essaie de travailler depuis longtemps au quotidien, parce que c'est important al imanu billah. Et parmi les branches de, on va dire, les différentes approches et les différentes notions nécessaires pour avoir la foi en Allah correctement, c'est croire en Allah, croire en ses noms, al-asma wa sifat, ses noms et ses attributs. Al-asma al-husna wa sifat al-ula. Ça te permet de connaître, d'avoir une certaine connaissance, une approche des qualités de ton Seigneur. Ainsi donc, ce croyant qui a sa foi qui est blindée, il connaît les qualités de son Seigneur, il a étudié, il l'a appris, et quand il fait doua, il le fait avec une conviction, une concentration et un husnul dhann billah qui est exceptionnel, qu'Allah nous accorde cette qualité. Donc on va conclure ce hadith, qu'Allah agit avec nous selon la pensée que nous avons de lui. Donc essayons d'approfondir notre connaissance sur les noms, les attributs d'Allah, purifions notre cœur des péchés, ayons cette conviction qu'Allah est sami'un basirun. Allah entend tout, Allah voit tout, alim, c'est ce qu'il y a dans les poitrines. Allah est latif, Allah est bienveillant. C'est lui qui crée les situations. Je suis dans une situation de stress, d'angoisse, de crainte, de peur. J'ai besoin de mon Seigneur, c'est Allah qui m'a mis dans cette situation. Et Allah m'observe, il attend une réaction de ma part, et lui seul est capable de m'enlever de cette situation difficile. Et la réaction qu'il attend de moi, c'est d'abord que j'oriente mon cœur vers lui, que je fasse vivre ce « Wa'iyyaka nasta'in » auprès de toi, que je cherche de l'aide. Donc, cherche de l'aide, mais avec « Huburul qalbi », avec présence de cœur. Ne récite pas les invocations. Ne te contente pas de demander aux savants, aux chouyours, aux fundis, fais doua pour moi. Non. Ne te contente pas de suivre un imam qui fait doua, de dire amin. Non. Vis le doua toi-même, parce que c'est al-ibana, c'est l'acte d'adoration par excellence qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles. Il y avait encore un petit point à développer, si vous permettez, un hadith ou deux. Le prophète alayhi salat wa salam. Voilà, on a retrouvé le hadith d'Ubad ibn Samit, radiallahu anhu, et le hadith rapporté par l'imam Ahmed fil Musnad. Ma ala dhahri al-ard min rajulin muslimin yad'u Allah. Il n'y a pas, et les termes sont magnifiques parce qu'on parle de, il n'y a pas sur la surface de la terre un seul homme qui a la foi qui fait. C'est-à-dire que vraiment, on est en train d'identifier chaque croyant qui lève ses mains. Ou qui fait doua sans lever les mains, il n'y a pas d'obligation de lever les mains, bien sûr. Chaque croyant qui active, qui se met en mode invocation, il est concerné par ce hadith. Donc, il n'y a pas sur la surface de la terre. Là, je fais une traduction mot à mot, hein, ce n'est pas la plus belle des traductions, pour qu'on comprenne chaque mot de ce hadith. Il n'y a pas sur la surface de la terre un homme croyant qui invoque Allah Azza wa Jal sans que. Sans qu'Allah ne lui accorde ce qu'il demande. Ou Allah le protège d'un mal qui aurait pu l'atteindre, un mal équivalent. La traduction est approximative. Allah, soit Allah te donne, t'accorde ce que tu demandes, ou Allah Azza wa Jal décide de ne pas t'accorder, de ne pas exaucer la demande précise, mais entre guillemets, en compensation, il te donne quelque chose d'autre qui est mieux pour toi, il te protège de quelque chose qui est mauvais. Réalise, autant de doua que tu demandes, c'est soit l'acceptation ou c'est la protection contre quelque chose de mauvais. On continue en français, tant qu'il ne demande pas quelque chose qui est mauvais, ou alors qu'il ne fait pas des doigts pour la rupture des liens avec la famille. Donc ça c'est la conclusion, elle est plus ou moins claire. Donc on réalise que le doigt c'est soit Allah te l'accorde, soit te protège. Donc on est toujours gagnant lorsqu'on fait doigt. Et il y a un troisième hadith de Aïcha radiallahu anha, de lequel ma min abdin mu'minin, on va dire en français, il n'y a pas un croyant qui invoque son Seigneur sans qu'Allah ne lui accorde dans ce dunya, hatta tu'ajjala lahu fid dunya, sans qu'Allah ne lui accorde immédiatement sa demande de ce dunya, aou, et c'est là que ça devient intéressant et ça devient croustillant, aou tudakhkhar lahu fil akhirah, ou alors Allah décide de réserver cette invocation pour l'au-delà. et les savants expliquent à la lumière d'autres hadiths, ça veut dire quoi? Allah réserve ton invocation de l'au-delà, c'est qu'Allah ne t'a ni accordé, ne te l'a pas accordé de ce monde, ne t'a rien donné de ce monde, mais cette invocation se transforme en hasanat, en récompense. Et le jour de Qiyama, ce serviteur trouvera des montagnes de bonnes actions dans son livret de compte. Et les savants expliquent que ce croyant, avec l'honnêteté qui sera la sienne le jour de Qiyama, va avouer à son Seigneur que ces bonnes actions-là ne lui appartiennent pas. Je n'ouvre pas de parenthèse, on ne peut pas se permettre, le temps est limité, mais ça nous permet de réaliser que le jour de Qiyama, Allah te donne une connaissance globale de ta vie. Tu reconnais la moindre bonne action que tu accomplis depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, mais également le moindre péché. Tu en es totalement conscient. C'est comme si c'est un fichier qui s'est ouvert et tu te souviens exactement de ces instants. Et là, on trouve des fichiers inconnus, des hasanat inconnus, et le serviteur dira à son Seigneur que ces actions-là ne m'appartiennent pas, et on lui dira que ce sont les invocations de ce dunya. Et dans certaines sources, il est cité que la personne aurait souhaité qu'aucune de ses doigts n'ait été acceptée dans ce dunya pour qu'il trouve l'équivalent de toutes ces invocations en récompense. Et nous savons que le moindre iota, le moindre atome de bonne action est a une valeur inestimable le jour de Qiyama parce qu'il a son pesant dans la balance. Maintenant, ce sont des montagnes de hasanat par rapport au doua. On comprend qu'Ikhwan et Khawati Fillah, ça nous apporte quelque chose d'énorme. Chaque invocation, soit tu l'obtiens, soit tu es protégé contre quelque chose de mal, ou alors Allah te donne des récompenses au jour de Qiyama qu'on trouvera cash, et pas uniquement cash, multiplié dans notre mizan et hasan, le balance au jour de Qiyama. Donc, faisons le maximum de doua, essayons de nous concentrer, conviction qu'Allah m'entend et qu'Allah est attentif, il est proche lorsque je l'invoque, et qu'Allah Azza wa Jalla donne la possibilité de trouver la concentration dans les invocations. Ma tawfiqi illa billah, jazakumullah khair, ma tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati, amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah khairan.